curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Jake Allen qui prend le chemin du New Jersey en entrevue à TVA Sports un peu plus tôt aujourd'hui, où il a parlé de patience. Il a été patient dans cette situation de ménage à trois chez le Canadien de Montréal. Et maintenant, il se retrouve avec les Devils du New Jersey, une équipe qui savait qu'il y avait un certain intérêt à son endroit. Et il est content de pouvoir essayer de retrouver sa game, de pouvoir essayer de retrouver ses repères et de s'établir à nouveau comme un gardien de but qui va pouvoir aider les Devils du New Jersey. Et sur place aujourd'hui, à Brossard pour s'entretenir, entre autres, avec le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, Martin McGuire, qui se joint à nous. Martin, bonsoir. Merci beaucoup. T'as entendu, évidemment, Jake Allen. Et il a été patient, c'est vrai. Et là, il va falloir que nous, on se trouve un autre sujet de discussion, parce que la chose dont on parle depuis le camp d'entraînement, c'est le fameux ménage à trois.
Écoute, honnêtement, Louis, quand on regarde ça, ça n'a pas été négatif jusqu'au bout, cette affaire-là. Le ménage à trois a permis de garder Primo avec le grand club. Ça a permis de développer Primo à la vitesse grand V, ce qui est arrivé cette année. Pour prendre l'expression, il est tombé dans les pattes d'Éric Raymond. Puis on a fait quelques correctifs dans son jeu. La mitaine, on lui a demandé d'être un peu plus profond dans son filet pour compenser certains de ses déplacements avec ses pieds qui étaient peut-être un peu moins à point, et son jeu a changé. Ça a pris une autre vitesse. Et honnêtement, Louis, le Canadien n'aurait pas pu faire ça si Primo avait été dans la Ligue américaine. Ce qui a rendu ça possible aussi, le ménage à trois, c'était que Jake Allen a toujours fait passer l'équipe avant ses intérêts personnels. Puis j'ai bien aimé l'extrait qu'on a fait entendre. D'ailleurs, c'est lors d'une entrevue qu'il a donnée à TVA Sports un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il a pris sa pilule, il a rongé son frein. Peut-être que quand il est rentré à la maison, il n'était pas de bonne humeur, mais il l'a jamais montré, ni devant ses coéquipiers, puis particulièrement à ses coéquipiers gardiens de but. Là, ça a été un trio qui s'est supporté toute l'année. On en a parlé, bien sûr, avec le directeur général Kent Hughes. Kent Hughes qui a qualifié ses trois gardiens de but de pro, de véritables pros. Et je vous rappelle qu'il est passé aux Devils en retour d'un choix conditionnel de troisième ronde. Ce choix pourrait devenir un choix de deuxième ronde si les Devils font commencer 40 matchs en saison régulière l'an prochain à Jake Allen. Bien évidemment, faites à noter, Louis, le Canadien a retenu 50% du salaire de Jake Allen pour rendre possible cette transaction. Alors, un premier extrait du point de presse de Kent Hughes sur le duo qu'il fallait protéger, c'était les deux plus jeunes gardiens de l'organisation. On va l'écouter.
Je pense au départ, c'est vraiment commencé. On savait que Caden aurait été pris sous le waivers. On n'avait pas Sam signé une extension. On n'était pas prêt à perdre Caden sur le ballottage, puis perdre Sam au fin de l'année sur le marché autonome. Alors, on a pris la décision qu'on commencerait avec trois gardiens. Mais ça fait une boue depuis que Caden joue bien, que avec l'équipe qu'on a, où on est rendu dans notre construction, que l'idéal était d'échanger Jake. Il y a plusieurs gardiens qui ont été disponibles, puis les équipes qui avaient besoin de gardiens ont été ils ont attendu, ils voulaient pas faire des échanges. Des équipes comme Edmonton puis Caroline, que je pense à une partie de l'année, tout le monde croyait avait besoin de faire de quoi, ont rien fait.
Et je suis honnêtement surpris, Martin, de voir qu'on a échangé Jake Allen. Je ne croyais pas que ce serait possible à ce stade-ci de la saison. Quand on regarde le prix de certains très, très bons joueurs qui ont été échangés, je ne parle pas de gardien de but, mais je parle juste globalement des défenseurs, des attaquants, je suis un peu étonné. Et je pense que Kent Hughes, encore une fois, a quand même bien fait les choses. Et ultimement, c'est un vote de confiance, comme tu le mentionnais, pour Primo, mais surtout pour Montembeault. Puis si on recule il y a quelques mois, Martin, on se rappelle à quel point on n'était pas sûr ce qu'on avait. Est-ce que Primo est un numéro un? Est-ce que Montembeault est un numéro un? Je pense qu'il l'a clairement prouvé. Et puis là, Primo aussi a démontré que c'est un gardien de but de la Ligue nationale.
Oui, puis même, Louis, à un moment donné, là, les fameux Devils New Jersey qui ont acquis Allen, là, ils ont eu de l'intérêt pour Kaelin Primo. Mais le Canadien, évidemment, la sage décision, c'était d'y aller avec le plus jeune. Kent Hughes a parlé de ce ménage à trois. Mm-hmm. Il s'est engagé, lui, à la mi-saison, lors du bilan de mi-saison, de régler ce problème-là en disant que la pression était sur ses épaules. On va écouter l'extrait où il a répété ça aujourd'hui.
Écoute, je pense que depuis qu'on a signé Sam, j'ai dit que c'était la pression était sur moi maintenant de faire cet échange, qu'idéalement, on serait à deux. Autant pour notre équipe, mais pour les gardiens aussi, pour être juste envers tous les trois gardiens, de donner Sam plus, de donner Kaden et Jake plus de temps aussi, puis de s'habiller à chaque match, puis de pratiquer. Je dois avouer que on doit remercier les trois gardiens pour leur professionnalisme. Ils ont été super dans des contextes moins qu'idéal. Ils ont tous les trois été des vrais pros.
Et parlant de pros, y a des joueurs comme ça qui se sont, je pense, vraiment démarqués cette saison. Et quand on dit qu'on a tendance à oublier la progression et tout ça, ben c'est assez concret quand on regarde la situation devant le filet. Mais aussi, il y a des joueurs, il y a eu des transactions papier aujourd'hui du côté des Canadiens de Montréal, notamment impliquant Joshua Roy.
Oui, l'avenir de Roy a été au centre des conversations depuis une couple de jours, Louis, dans les médias. Auprès des amateurs. Mmh. Il a connu un super voyage. Il a été un contributeur direct. À chaque fois qu'il va sur la patinoire, il a des chances de marquer. Il y a une couple de mois, la direction avait décidé qu'on développerait Slavkovski avec le grand club, avec tout ce que ça comportait de bon et de moins bon. Roy a passé un bout dans la Ligue américaine, puis quand il est arrivé avec le grand club, ça a marché tout de suite. Puis là, ça marche encore très bien. Mais il y a une dualité. Est-ce qu'on l'envoie à Laval pour contribuer à amener le Rocket en série qui est encore dans une course avec les Marlies de Toronto? On pensait que l'acquisition de Jacob Perreault pourrait combler ça. Mais aujourd'hui, c'est une question de papier, là. On a rendu illégible Jaden Struble et Joshua Roy pour qu'ils puissent descendre, peut-être pas tout de suite, mais bientôt, mais surtout être capable de jouer en série avec le Rocket. Kent Hughes a mentionné que c'est une décision qui va se prendre dans les intérêts suprêmes du club, mais aussi du jeune joueur. On l'écoute.
Je pense que c'est vraiment... On cherche l'équilibre. Guillaume, faut qu'on prenne une décision pour le mieux pour les Canadiens de Montréal, pour les meilleurs, pour le mieux pour Laval, mais aussi pour Josh. Alors, c'est quelque chose qu'on discute vraiment de jour à jour. Pour le moment, Josh, il va rester avec nous, mais on va continuer à évaluer de proche.
Évidemment, le gros nom aujourd'hui, celui qu'on surveillait, même si on présumait qu'il n'allait pas être échangé, c'était David Savard. Est-ce qu'il y a eu un moment aujourd'hui où tu as cru qu'il allait être échangé?
Je ne le sais pas aujourd'hui, mais je vais te dire une chose. Il y a environ 2-3 semaines, j'ai cru que l'intérêt était tellement vif autour de Savard. Il y avait au moins 4 à 5 équipes qui le surveillaient de près. 4-5 équipes qui surveillaient le Canadien presque à tous les matchs. Mm-hmm. Et qui avaient certains de ces dépisteurs-là, qui des représentants d'équipes, qui avaient noté dedans, parce que pour que les gens comprennent, oui, là, il y a toujours des classements. On fait des classements 1, 2, 3, 4, 5 dans ce qu'on cherche. Bon, on cherche un défenseur à caractère défensif, avec des qualités physiques, qui bloque des tirs. Bon, ben 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous savions, Danny et moi, que Savard était très bien classé parmi plusieurs équipes qui cherchaient ce genre de défenseur-là. Mais ce qu'on a aussi appris, c'est que il y a eu des discussions, mais le prix que le Canadien demandait était assez cher. On a compris, puis vous allez comprendre en écoutant cet extrait, que pour le Canadien, la valeur de Savard était bien plus intéressante ici pour terminer la saison, puis l'an prochain pour guider les jeunes, plutôt que de récupérer des choix de repêchage ou même des prospects. On va écouter Kent Hughes qui a été assez clair là-dessus.
Pour nous, David faisait partie de l'équipe. C'est pas quelqu'un qu'on cherchait d'échanger. Son valeur à l'équipe sur la glace, son valeur à nos jeunes défenseurs était très important à nous. Comme j'ai dit à ce moment-là, c'est pas à dire que il est inéchangeable, mais c'était pas notre objectif.
Pas notre objectif. Et à un moment donné aussi, il faut avoir des vétérans. Ça prend des joueurs, des gars qui ont des belles carrières, justement, qui sont capables de montrer un peu le chemin aux plus jeunes, parce que sinon, on pourrait sortir beaucoup d'exemples d'équipes que, à un moment donné, si tu donnes les clés du char aux jeunes, ça peut peut-être virer. Ouais, tu peux peut-être te retrouver dans le fossé un peu, là. Donc, je pense qu'on le reconnaît, ça.
Puis en anglais, dans le point de presse, il a été question de Armia. Il ne l'a pas nommé lui, mais la question qui lui a été adressée concernait Armia. Parce que aussi, tu sais, à quelque part, oui, Armia joue du bon hockey, année de contrat finale l'an prochain. C'est un contrat quand même assez lucratif parce que dans une bonne équipe, Armia aurait été un joueur de soutien. Quatrième trio probablement dans une bonne équipe. Mais à un moment donné, Kent Hughes sur Armia a dit « ça nous prend des bons vétérans pour faire une transition mm-hmm. ». Puis il faut que les jeunes puissent s'appuyer sur des joueurs un peu plus expérimentés. Tu le dis très bien, il y a des organisations qui ont essayé de tout donner ça aux jeunes trop vite. Puis ça a coûté cher, ça a coûté des congédiements de coach, ça a coûté des retards de développement. Puis ultimement, si tu finis par les échanger, t'es jeune parce que tu penses qu'ils ont juste des défauts. Alors, c'est un peu ça. Alors, puis je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est le travail que Savard fait avec Jack High. Jack High avait tendance à courir un peu partout sur la glace, mais depuis qu'il est avec Savard, il est influencé. Alors, il joue un jeu beaucoup plus stable, puis il progresse bien. Alors, ça, c'est un bel exemple de l'impact de Savard. Quelques questions ici et là, évidemment. Kent Hughes a mentionné qu'il y avait eu des appels pour quelques joueurs, sans les nommer, là, mais qu'il n'y avait rien de très intéressant pour le Canadien là-dedans. Il y en a un qu'on pensait pouvoir être échangé, c'est Tanner Pearson, parce que lui, il était en fin de contrat. Là. C'est un vrai joueur de location.
Finalement, mais depuis sa blessure, malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose.
Oui, puis même, récemment, il jouait un peu mieux, mais il n'est peut-être pas assez pour convaincre les autres équipes. Je sais que oui, tu vas développer avec tes prochains collaborateurs, mais quand on regarde la journée, là, globalement, là, les Golden Knights sont encore très agressifs avec l'acquisition de Thomas Hertl des Sharks de San Jose. Sans mauvais jeu de mots avec la ville de Vegas, eux, ils sont all-in cette année. Là. On a l'impression qu'ils vont tenter d'aller en gagner une deuxième avec l'acquisition de Anderson et bien sûr de Manta, très actif au niveau des joueurs de soutien également. La Caroline avec Gensel hier soir, ils ont pris le pari Kuznetsov. Ça a coûté un choix de troisième ronde pour un gars qui était au balotage, mais bon, on prend le pari que ce gars-là pourrait aider à marquer des buts. Il y a une petite communauté russe dans l'équipe des Hurricanes. Peut-être que Kuznetsov va se sentir bien dans cet environnement-là. J'ai beaucoup aimé ce que les Jets de Winnipeg ont fait parce que...
moi aussi.
Tu sais, Tyler Toffoli, on l'a connu à Montréal. Il a un peu maintenant la réputation d'être un mercenaire parce que depuis LA, il a changé souvent d'équipe, mais c'est un bon mercenaire. C'est-à-dire que il embarque sur la glace en série, il marque des buts importants dans l'épopée de 2021 avec le Canadien là jusqu'en finale. Il accumulait un point à tous les deux matchs en série, dont des buts importants. Alors les Jets ont fait quelques bons coups. Les Pingouins ont continué leur liquidation. Et je termine avec ça. Louis, silence radio pour les Bruins de Boston,
ouais,
qui ont acquis Pat Maroon, je dis bien Pat Maroon, et les Kings de Los Angeles, niette.
Ben, je dirais que les Maple Leafs, même avec Joel Edmondson et tout ça, The War, pour moi, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, les Maple Leafs qu'on verra demain au Centre Bell,
oui,
pour une équipe qui, parlant de Vegas sont clairement all-in, mais les Maple Leafs, on est pas mal rendus là. Martin, merci infiniment. On va te laisser là-dessus. Et on va t'écouter, évidemment, en avant-match demain avec Danny pour ce duel Canadien-Maple Leafs en direct du Centre Bell. Bonne soirée.
On est là à 18h. Bonne émission, Louis.
Merci infiniment.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Aux amateurs de sport, spéciale transaction, ça a été une grosse journée à travers la Ligue nationale de hockey. En fait, une grosse semaine partout à travers la Ligue nationale de hockey avec beaucoup de joueurs qui ont changé de camp. Une course aux armements, littéralement. Plusieurs équipes qui décident d'aller all-in pour la Coupe Stanley. Et il y a 21 ans, presque jour pour jour, il était échangé de Phoenix au Sabre de Buffalo à la date limite des transactions. Maintenant, c'est lui qui est aux commandes des Flyers. Daniel Brière, bonsoir, comment vas-tu?
Ouais, salut, oui, ça va très bien, merci. J'avais oublié ça, que ça faisait quasiment 21 ans déjà.
Le 10 mars.
C'est intéressant.
Le 10 mars 2003, ben, et ça a été un moment qui a un peu changé la trajectoire de ta carrière.
Là. Totalement, ça a changé pour moi. Écoute, je suis parti, je suis arrivé dans une nouvelle organisation qui m'ont donné une chance de jouer beaucoup, qui était un peu en reconstruction. Puis ça a été une des meilleures choses qui me soit arrivée là, personnellement.
Alors maintenant, 21 ans plus tard, directeur général des Flyers de Philadelphie, une année qui va clairement et clairement au-delà des attentes, je pense, Daniel, de beaucoup. Moi, le premier, je vais avouer que je vous avais exclu des séries, mais là, les séries, si elles devaient débuter aujourd'hui, non seulement vous seriez là, mais vous affronteriez les Hurricanes de la Caroline. Je vais parler de tout ça dans quelques instants, mais d'abord et avant tout, comment ça s'est passé pour toi à ta première expérience aux commandes, à une date limite des transactions comme ça? Tu as échangé un très, très bon joueur, le défenseur Sean Walker, avec un énorme retour de l'Avalanche du Colorado, mais aussi tu es allé chercher quelques joueurs et tout ça. Alors, d'abord, comment ça s'est passé, l'expérience?
Ah, écoute, ça a été superbe comme expérience, personnellement. Tu sais, j'essaie d'expliquer aux gens, quand tu as une bonne équipe alentour de toi, ça aide beaucoup. C'est un peu la même chose qui s'est passée ici. C'est probablement ça dont je suis le plus fier, c'est la façon dont on a travaillé ensemble. T'sais, c'est pas juste une personne ou deux qui dirigent le tout. On inclut notre équipe, on écoute, on a de bonnes discussions, puis on prend des décisions à partir de ça. Fait que ça a été superbe comme première expérience. J'ai du bon monde alentour de moi. J'ai des anciens GM comme Dean Lombardi et Bob Murray qui sont là pour aider aussi. Fait que j'ai adoré l'expérience. Puis ça va mieux me préparer pour les années futures.
Quand même assez particulier de voir les Flyers de Philadelphie qui échangent un excellent défenseur en Sean Walker, mais en même temps qui vont chercher un gars comme Eric Johnson, Denis Gurianov, entre autres, parce que vous n'êtes pas en train de liquider ou de se débarrasser de joueurs. Vous êtes en position pour à la fois vendre, mais aussi d'essayer de rajouter des joueurs pour essayer de faire les séries éliminatoires et faire un bout de chemin. C'est quand même très étrange et particulier, et c'est rare qu'on voit ça.
Ouais, écoute, on essayait d'aligner les deux. Dans notre cas, c'est de garder une vision vers le futur. Cette vision-là nous a amené à échanger Sean Walker à cause de la valeur dont ça nous ramenait. On ne pouvait pas passer à côté-là quand on pense au futur des Flyers. C'est un bon problème à avoir parce que la façon dont notre équipe a joué, la façon dont nos joueurs ont joué a créé beaucoup de valeur de ce côté-là. Puis ça nous a donné la chance d'aller chercher une pièce pourrait être très, très importante, le premier choix de l'Avalanche en 2025. Mais en même temps, on voulait donner la chance à nos joueurs de finir la saison en force, d'essayer de rentrer en séries éliminatoires, même si on sait là, que ça va être difficile d'ici la fin de l'année. C'est là qui est venu la recherche de certains joueurs. Un gars comme Eric Johnson coûtait moins cher, mais qui nous amène de l'expérience parce qu'on est une équipe jeune, on est une équipe en reconstruction, dont un Eric Johnson qui a joué beaucoup de matchs de série, qui a remporté une Coupe Stanley. On n'avait pas ça dans notre alignement, un joueur qui avait gagné une Coupe Stanley. Fait que c'est devenu très, très intéressant de ce côté-là. Puis Gurianov, ben, vous l'avez vu à Montréal, c'est un joueur, c'est ça, il a connu disons une belle lancée il y a quelques années en séries éliminatoires avec les Stars de Dallas. Ça a moins bien été depuis ce temps-là. C'est un gros bonhomme qui patine bien. Donc on voulait lui donner une chance. On va voir là, si ça en valait la peine ou non.
comme joueur, à quel point c'est important, justement, quand tu arrives à la date limite des transactions, que le boss en haut envoie un message, crois en vous, je vous donne des munitions pour vous aider. Et un gars comme Eric Johnson, c'est presque 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Tu as mentionné sa coupe avec l'Avalanche en 2022. Mais aussi, c'était une position qui est extrêmement importante parce que vous avez plusieurs blessures à la ligne bleue actuellement. Ouais. Sealer est blessé, Drysdale est blessé, Ristolainen également est blessé. Alors, non seulement c'est un gars qui a de l'expérience, qui a gagné, c'est un gars qui joue à la dure, un peu à la Flyers de Philadelphie parce qu'il bloque des tirs, il est physique, il est intense et tout ça. Mais aussi, vous aviez carrément besoin de défenseurs en santé.
Oui, ça a été... puis tu sais, écoute, nos jeunes joueurs ont joué de l'excellent hockey. Hier soir, en Floride, avec trois recrues dans l'alignement, on est allé gagner un match là-bas. Écoute, ça nous impressionne que les jeunes joueurs aient pas peur des gros matchs comme ça. Mais t'as entièrement raison. Il fallait leur amener un peu d'aide de ce côté-là. Sealer devrait revenir très bientôt aussi, ça devrait aider. Mais on était très, très honnête avec nos joueurs depuis le début. Les joueurs savaient qu'on était probablement pour garder vers l'avenir, puis qu'il y aurait des changements dans cette direction-là. Mais en même temps, c'est important de leur laisser savoir qu'on voulait les aider, puis les récompenser un peu pour la saison qu'ils connaissent, le fait qu'on soit dans la bulle des séries éliminatoires pour le moment. Je sais très bien que ça peut changer vite, mais au moins leur donner un peu plus d'espoir là, de ce côté-là. Fait que c'était pas facile d'essayer d'amener les deux, la vision vers le futur, mais aussi de les aider en ce moment.
Je parle des joueurs, mais est-ce que c'est un peu la même chose du côté du coach? John Tortorella, lui, chaque match est un match des séries. Il est exigeant envers ses joueurs. Ouais. On l'a vu même dans la dernière semaine et demie. Critiquer certains vétérans, mettre un peu de chaleur sur les champs de couturiers et compagnie, tout ça pour leur dire le rendement, les attentes ici, la barre, on la place très, très haute. Et est-ce que lui aussi un peu a mis de la pression pour dire, donne-moi des munitions, donne-moi des joueurs qui vont pouvoir nous aider à continuer à pousser les limites de cette équipe-là.
Ouais. Non, au contraire, John était très, très confortable avec l'équipe qu'il avait sous la main. Veut continuer à développer les jeunes. Tu sais, souvent, on pense à John Tortorella, on pense qu'il n'est pas bon avec les jeunes. C'est tout à fait le contraire. Lui, il adore travailler avec les jeunes. Il peut un peu les mouler exactement ce qu'il veut. Mais c'est ça. La culture a changé beaucoup depuis qu'il est arrivé ici à Philadelphie. Puis il n'y a personne qui a des passe-droits, que tu sois un jeune de 18 ans ou un vétéran de 42 ans. Tout le monde passe à travers les mêmes attentes. Puis c'est ça qui fait qu'il est capable d'aller chercher le meilleur. Des joueurs de 18 ans ou des vétérans qui ont passé plusieurs années dans la Ligue nationale. Fait que c'est superbe de ce côté-là. Les joueurs répondent bien à ses attentes jusqu'à date. Mais non, il n'y avait aucune pression de la part de John Tortorella d'aller chercher là, des vétérans. Il était confortable avec ce qu'on avait. Mais en fin de journée, on s'est dit, les joueurs, les entraîneurs, le travail qu'ils ont fait, ils méritent un peu d'aide.
Est-ce que t'es pas assez proche de faire quelque chose de beaucoup plus gros?
Pas assez proche, non. Je dirais pas qu'il y avait rien de super sérieux. On a écouté, c'est certain qu'il y avait d'autres équipes qui aimaient certains de nos joueurs, mais rien qui faisait énormément de sens pour nous en ce moment. Après l'échange là, de Sean Walker, c'est sûr que des équipes se sont informées sur certains de nos vétérans, mais pas plus que ça.
Lawton, c'en est un, je présume, parce que c'est un nom, entre autres, qu'on entendait depuis des semaines.
Ouais, ben qu'est-ce qui est arrivé de ce côté-là, c'est que y a les deux joueurs de centre qui ont parti très, très tôt, il y a deux ou trois semaines de ça, avec Lindholm et Monahan du Canadien qui était allé à Winnipeg. Il y avait un peu une pénurie de joueurs de centre, donc c'est là que le nom de Lawton a commencé à sortir. Mm-hmm. C'est pas nous autres qui le magasinaient, les équipes appelaient parce qu'ils avaient entendu les rumeurs. Donc moi de mon côté, puis écoute, j'ai joué avec Scott Lawton, j'ai une très belle relation avec lui, c'est un ami de longue date. J'ai été très, très honnête avec lui. Je lui ai dit que les équipes appelaient, qu'on écoutait, que c'était mon travail et mon devoir d'écouter ce qu'on offrait. Mais j'ai été aussi très clair avec lui que j'étais pas pour l'échanger, juste pour l'échanger. Puis même que si c'était une offre qui était qui était juste fair, qu'on n'était pas pour l'échanger. Il fallait que ce soit un échange vraiment là, qui nous surprenne puis qu'on puisse pas dire non. Donc, c'est ça. Il savait où il en était. On essaie d'être franc avec nos joueurs, honnêtes de ce côté-là. Puis je pense que les joueurs apprécient ça. Du moins, moi, quand j'étais joueur, j'aimais ça là, que les dirigeants soient honnêtes.
Est-ce que il y a des choses qui t'ont un peu surpris? Est-ce que quand on regarde d'autres transactions, là, les Golden Knights, clairement, cette équipe-là ont été chercher plusieurs joueurs. Soudainement, Mark Stone, le capitaine, est blessé et on est capable d'aller chez trois joueurs d'impact, Hanifin, Anthony Manta et Thomas Hurdle des Sharks de San Jose. Mais je veux pas te mettre ça dans la bouche. Je suis curieux de savoir pour toi, est-ce qu'il y a des équipes, entre autres, qui t'ont un peu étonné ou des transactions qui t'ont surprise?
Oui, ben écoute, c'est difficile pour moi de commenter sur le travail des autres équipes. Je peux pas vraiment faire ça. Mais c'est sûr, oui, il y a des équipes qui ont pris de belles bouchées de ce côté-là, qui se sont mis en position favorable là, pour le sprint de fin de saison, les séries éliminatoires. Mais on essayait de se concentrer sur nous autres. On essayait de garder un œil vers le futur. En même temps, d'essayer d'aider l'équipe. On le savait, puis on avait été aussi très, très clair qu'on n'était pas pour dépenser des choix de première ou deuxième ronde aujourd'hui. On était très clair, à moins que ça aurait été pour un échange de hockey. On n'était pas prêt à risquer le futur là, pour des joueurs loués juste pour finir la saison. Mmh. Fait qu'on était très clair de ce côté-là. Mais on essayait là d'aider du mieux qu'on pouvait. C'est pour ça qu'on c'est un gars comme Eric Johnson, il y avait d'autres équipes dans la course aussi. Fait qu'on était très très fiers là d'avoir pu mettre la main sur lui.
Et sauf erreur, je pense que vous avez encore 10 choix pour le repêchage au mois de juin prochain en 2024. Alors, vous avez pas liquidé quoi que ce soit en termes de pouvoir bâtir l'équipe avec des espoirs et tout ça. Daniel Brière, merci infiniment. On va vous souhaiter bonne chance demain face au Lightning de Tampa Bay, un autre gros match face aux Bolts, mais on apprécie ouais. énormément ton temps puis bonne continuation d'ici la fin de la saison.
Un gros gros merci à toi Louis également.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
8 mars... 21h05, ça sent la coupe aux amateurs de sport. Honnêtement, c'était le segment que j'avais le plus hâte de faire avec Pierre Gervais et l'invité Patrice Brisebois, ancien champion de la Coupe Stanley en 1993. On va avoir la chance de parler de tout ça au cours des prochaines minutes. Mais Pierre, Treat Me Right. Pourquoi la chanson? Pourquoi on a choisi ça, là?
Écoute, bonjour tout le monde, Mario, en passant, bonsoir tout le monde. Breezer, merci beaucoup d'être ici.
Le Jeff pour toi, anytime.
Et bien gentil.
Et pour Louis, parce que je suis
mon ancien collègue
aussi.
De travail.
Ouais, ouais.
Mais Treat Me Right, c'est que mon ami Breezer, il a pas été treated right par de la foule, fait que c'était un petit clin d'œil à ça.
Ah, ben oui, c'est vrai,
C'est une bonne tune, Louis.
Oui, c'est vrai, Pat Benatar qui a fait des bonnes tunes. Puis on va parler un peu de musique aussi, je pense, au cours de la prochaine heure, parce que il y a des liens avec la conquête de la Coupe Stanley et de la musique et tout ça. En passant, merci beaucoup d'être avec nous en studio ce soir pour la prochaine heure. On va pouvoir parler de ta carrière, de tes passions, de ce qui te passionne encore aujourd'hui, ce que tu fais actuellement. Mais d'abord, Pierre, c'est ta chronique.
Yes.
Alors, tu nous présentes toujours une chanson.
Mm-hmm.
Et aussi, tu arrives avec une bonne bouteille de vin. Puis moi, j'ai fait le 28 jours sans alcool en février. Alors, c'est mon premier... Juste le sentir, là. Oh my God. Juste
c'est
le
pas
sentir,
l'étiquette.
Là. C'est pas... Non, t'es confirmé.
C'est mieux de juste le sentir. C'est ton premier.
Est-ce que je me trompe? Puis, tu vas nous présenter ta bouteille, mais est-ce que je me trompe? T'as décidé d'amener quelque chose de quand même bien parce que le Breezer était là ce
oui,
soir?
Oui, quand j'ai vu que le Breezer était là, j'ai dit, on va upgrade un petit peu. On va upgrade une petite affaire. Écoute, c'est un Sangiovese Reserva de la maison Umberto Cesari. C'est quand même très abordable, c'est 21,95, mais c'est vraiment très bon. Tu sais, tu peux goûter de la cerise, tu peux goûter le petit peu de la vanille, ça se boit bien, c'est bien balancé. Le code, c'est le 107 8-0-3-3-8. Il y a du plaisir parce que ça se marie à plusieurs mets, plusieurs plats, puis ça se boit bien.
Ouais, et ça a du coffre juste à le sentir. Mais ouais. Écoutez, là, c'est un vin qui a du goût. Est-ce que tu l'apprécies, Patrice?
Très bien. Très, 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 très bon. Tout ce que le jeu ramène, c'est toujours bon.
Est-ce que c'est Pierre qui t'a présenté un peu au vin? Comment
oui.
ça?
Oui. Oui. Il y en a qui me blâment. Il y en a qui me blâment, ça n'a pas d'allure.
Moi, c'est mon ancienne femme qui était pas contente parce que on met ce vin autour. Parce que, on m'en souvient, avec Jerv, on avait des bons contacts à la SAQ, puis juste d'avoir certaines bouteilles, c'est un privilège.
On achetait pas mal, hein?
Ouais, on avait des bons contacts, puis on était des... Mais c'est une passion, hein? Et j'ai toujours dit de bien manger, de bien boire, c'est des belles choses de la vie. Puis moi, je l'apprécie beaucoup, ça. Et Pierre m'a vraiment fait découvrir des vins, que ce soit des Français, des Italiens, Californiens, n'importe quoi. Ouais. Mais on a aussi la chance et l'opportunité d'acheter ces vins-là.
C'est pas tout le monde. Stéphane Quintal à l'époque, puis José Théodore, puis on était plusieurs là-dedans.
Sacco, Brent Savage, Turner Stevenson. Je m'en souviens une fois, Turner Stevenson avait revenu à The Buffalo. Je pense qu'il avait dans son sac en arrière, il avait à peu près 24 bouteilles. Puis là, il passe les douanes, puis il dit something to declare. Non, non, non. Il y a l'épaule qui s'en va comme ça, quasiment. Non, tout est correct.
Oh boy. Oh, yes. Yes. T'as des belles années.
T'as des belles années, mon Dieu.
Mais t'as raison, Breezer. Ça, c'est un. Ceux qui peuvent se le permettre, là, bien manger, bien boire, c'est un plaisir de la vie. Tu sais, C'est bon pour l'âme, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour bien les affaires, naturellement.
Bon pour le mental.
Oui, exactement ça.
Parce que, honnêtement, je suis chanceux parce que ma copine est italienne puis elle fait à manger extraordinaire. Et des fois, elle me fait des plats, là. Et là, je rouvre des bouteilles, là, Jeuve, là. Je te jure, là. Puis, je me pince, mais je me dis. Je sais que je suis chanceux.
Oui, exactement.
Je sais que je suis chanceux, puis je l'apprécie, puis mon vin, maudit qu'il est bon. Puis je pense à toi, mon Dieu, parce que la dernière fois, tu étais venu à la maison, ben, bon, j'ai plusieurs vins à la maison, et Dieu était venu faire, comment je peux appeler ça? Une
dégustation.
Pas une dégustation, mais de dire.
Mettre de l'ordre dans ses
bouteilles. Mettre de l'ordre, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est bon. Alors, vert, on est prêt à boire. Jaune, tu peux attendre un peu, puis rouge, mais ça.
C'est vrai, on a fait ça. Ben oui.
Alors, j'ai encore tous mes petits collants, ces bouteilles. Alors, à chaque fois, je prends
des verres, là, t'es dans le trouble.
Il y en a, c'est une coupe encore.
Oui,
c'est encore bon, pareil, mon Dieu.
Ouais, c'est bon.
Mais c'est vrai ce que vous dites par rapport au vin. Puis moi, je suis pas du tout, je ferai pas semblant non plus de connaître les vins. Pas du tout, je connais pas les cépages, les régions. Et j'ai souvent choisi les bouteilles presque par les étiquettes qu'autre chose. Mais une bonne bouteille de vin, là, qu'elle soit 20$, qu'elle soit 30$, peu importe le prix, c'est pas important. Mais de la boire tout seul, là.
Non.
C'est de la boire avec du monde, c'est de la boire avec des gens qu'on aime. C'est l'aspect social, c'est la convivialité.
Ouais.
Puis c'est que tu prends un moment pour profiter de la vie. Puis avant d'entrer en onde tout à l'heure, on en parlait, tu disais, hey, il faut profiter de la vie, tout ça, puis d'être dans la gratitude et tout ça. Alors, je trouve ça.
C'est pour ça que j'aime beaucoup les Italiens, moi, parce que c'est des gens de famille, c'est des gens qui sont importants pour eux, partager le repas, puis jaser, puis discuter, puis, tu sais, boire du bon vin. Puis moi, j'aime ça. C'est ce que j'aime. Pas d'être chacun dans son coin, puis avec ton...
Non. Non, parce que... Puis je leur dis, c'est le fun d'ouvrir une bonne bouteille, comme tu dis, là. Puis la personne qui connaît ça ou qui connaît pas ça, vont l'apprécier. Et c'est beau ce que tu dis, Louis, parce qu'il y a souvent des gens qui pensent qu'ils sont des connaisseurs, mais ils sont pas vraiment connaisseurs. Rager?
Ah, effectivement.
Puis c'est... alors, de voir les gens dire... Wow.
J'ai déjà mis le fortuné qui ont des super belles caves à vin, mais servir le vin à bonne température, c'est hyper important.
Ça,
dans les bons verres.
Oui.
Fait que tu sais, t'arrives chez vous, le gars veut te faire plaisir, il sort un grand Bordeaux dans la cave à vin. Sa cave à vin est à 12 degrés, c'est bien trop froid, tu sais, ça. Ouais. Il commence à être bon au bout d'une heure à la fin de la bouteille, tu sais.
Laissez respirer.
C'est ça, faut savoir faire.
Mais vous devez sûrement avoir des histoires, des drôles d'histoires. En passant, vous êtes aux amateurs de sport sur le réseau Cogeco. Ça sent la coupe avec Pierre Gervais et Patrice Brisebois des Canadiens de Montréal. Et, on m'a raconté une histoire. Je nommerai pas la personne parce que c'est des gens que vous connaissez, mais c'était des anciens joueurs. En fait, à l'époque, ils jouaient dans la Ligue nationale de hockey. et ils avaient fait une genre de cérémonie. Là. Tout le monde, pendant toute une semaine, ils s'étaient dit, on va faire la levée de la bouteille. C'était une belle grosse bouteille, puis ça faisait des semaines et des semaines qu'ils préparaient un dimanche une dégustation. Puis là, ils voulaient, puis je sais pas ce que ça veut dire, la levée de la bouteille, je sais pas, en tout cas. Mais peu importe, ils dégustaient une grosse affaire, puis c'était un canon, là. Tu sais, c'était, c'était une grosse bouteille. Puis il y a un des joueurs qui a décidé de faire un petit coup à l'autre. Il avait arrêté au dépanneur en s'en venant.
Il a acheté, là.
Tu sais, il était chez un petit vin, puis pendant qu'ils ont versé dans le verre, ben lui, il avait sorti, tu sais, il a changé le verre, puis il est arrivé avec l'autre, puis, hey, le gars, il sort son, il commence à déculer, là. Ah, mon Dieu. Ah, non, mais ah, il est bon pour ça. Quand ils lui ont dit que c'était pas le canon, que c'était pas le grand pas, cru. Hein? Non, il a flippé, là. Il était. Alors, sûrement que ça vous est arrivé. Il n'y a pas une histoire comme ça, là, de dégustation, de. Non?
Personnellement, oui. Pas avec les joueurs d'équipe, mais personnellement, oui. C'est déjà arrivé.
De vouloir tester ou de voir. Tu connais-tu vraiment ton vin ou non?
Tu sais, du monde, des chums viennent à la maison des fois, puis ça tente tout à boire du bon vin, puis le vin, je le mets déjà en carafe, mais je sors une autre bouteille à côté, là. Écoute, j'ai du fun avec ça, là. Hey, c'est-tu bon, ça? Puis il regarde la bouteille vide que j'ai bu il y a deux ans, peut-être. Ah, c'est drôle.
Pierre, alors, je veux pas qu'on oublie non plus que tu nous présentes toujours.
Oui.
À Ça sent la coupe, ton grand cru et ta piquette.
Yes.
Par quoi veux-tu commencer?
Ben bon, grand cru, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Mm-hmm. Donc, je lève mon chapeau à toutes les femmes qui travaillent dans le hockey, spécialement ceux qui gravitent dans le monde d'hommes, qui réussissent à performer. Mm-hmm. Exemple, Émilie Castonguay à Vancouver, qui est rendue assistante GM. On n'aurait pas pensé ça, là. Chapeau. T'sais, surtout pour une femme, là, monter dans un milieu d'hommes, là, c'est pas évident.
Puis, France-Margaret Bélanger.
Oui, effectivement. Wow. France-Margaret
Bélanger. C'est des grosses positions,
Chantal Maccabée, puis dans l'Hockey Magazine, il y avait un article là-dessus que je fais tous les mois, puis justement, j'en parlais de ça, là. Ça parle des femmes vraiment solides, puis vraiment.
Claudine Crépin.
Oui.
Travaille dans l'ombre, mais tellement une femme importante pour l'organisation. Combien d'années Claudine est là? C'est extraordinaire. C'est beau, Jeff, ce que tu dis, parce que je dis pas que le hockey, c'est un monde de macho, mais c'est un, c'est un monde d'hommes. Il y a plus en plus de femmes. C'est bien.
Moi, j'ai rien Paquette, contre ça. Parce que là, vous avez parlé de Geneviève Paquette là, avec la Fondation des Canadiens de Montréal.
Oui, il y en a beaucoup.
Il y a beaucoup d'exemples.
Sylvie Nadeau. On prenne à nommer. Là. Les Canadiens ont une très bonne représentation féminine.
Et c'est bon de mentionner aussi France-Margaret parce que il y a le propriétaire Jeff Morrison. Et numéro 2 de toute l'organisation, c'est France-Margaret Bélanger.
Alors, c'est quand même assez impressionnant. Je suis parfait. Super bien, ça.
Oui, vraiment. C'est une brillante.
La piquette de la semaine... J'ai vu aujourd'hui que Mike Tyson, il faisait un retour dans le ring à 57 ans. C'est pas vraiment Mike Tyson, mais moi, je suis rendu allergique à tous ceux qui font des retours, qui se retirent puis qui reviennent. Moi, là, prends ton temps puis...
Et je suis en train de dire, je peux pas revenir à la télé, ou je peux pas revenir à la télé. Pourquoi tu me regardes, là?
Calage 14, oui.
Ben non, c'est ça. Ouais.
Donne-moi une chance.
C'est un spring chicken, comme on dit, là. Mais tu sais, c'est quand je vois des... C'est comme Tom Brady, ça annonce la retraite grande, la grosse conférence de presse, puis là, ça revient un an après. Patrice Bergeron, il viendra pas, là. Puis comme il y a des bandes de musique, t'sais, Kiss, ils sont venus, je pense, sur trois tournées d'adieu, puis Elton John, puis... Prends ton temps, pense-y comme il faut, puis reviens. Je sais que c'est pas parfait, là, mais il y en a trop, je trouve. Il y en a trop qui font ça.
Et Tyson, c'est contre Jake Paul, le combat. Tyson a 57 ans, Jake Paul a 27 ans. Il y a 30 ans de différence. Je sais pas ce qu'on sait, c'est combien le contrat qu'ils ont signé. Ça doit être un montant faramineux.
Moi, c'est ça, je voulais dire, Louis, je veux pas te couper, mais Jerv, money talk, bullshit walk. Mike Tyson décide de retourner dans le ring, faire un combat comme ça, c'est vraiment pour l'argent. C'est aussi simple. Je vois pas d'autres raisons. Il y a rien. Cet athlète-là, elle n'a rien à prouver. Il a été le meilleur dans sa profession.
Il a perdu des sommes d'argent faramineuses.
Exactement.
Là. Lui, oui, mais c'est ça. Mais c'est ça me fait penser à tous les autres qui... Tom Brady, il n'a pas besoin d'argent. Lui, mais c'est... En tout cas,
mais des fois, c'est quoi, Jeff? Il faut jamais... Tu sais, on pense peut-être, quand on termine une carrière, on pense peut-être qu'on est fini, des fois mentalement. Puis après ça, tu as 2-3 mois off, puis tu te dis, non, il m'en reste encore. Parce que ces gars-là, tu sais quoi, on a toujours cette passion-là. Mm. Puis c'est dur d'arrêter. Même moi, quand j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite à 38 ans, je vais te le dire, j'ai pensé de faire un retour. Parce que quand j'ai pris ma retraite, j'ai pas pris ma retraite, on dirait à mes propres termes.
Mmh, t'étais pas prêt.
J'étais pas prêt exactement, Louis. Même ça, je te dis pas dans la Ligue
pourtant,
nationale.
Ça, c'est, toi, ça s'est fait de façon extraordinaire parce que ouais. T'es revenu à Montréal.
Ouais.
Et on te remet le trophée Jean Béliveau.
Oui, trophée Jean Béliveau cette année-là. Et,
mais tu avais l'impression que tu avais encore. Oui. Il te restait encore du hockey dans le corps. Puis oui. T'es quitté un peu amer, quoi.
Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça m'a pris plusieurs années avant de l'accepter. Oui, parce que. Et tu parles de ça, c'est que à ma dernière année, on s'était fait éliminer contre Boston en 4 parties. Et c'est l'année de Bob Gainey. Mm-hmm. Et après ça, bien, ils ont vidé l'équipe, que ce soit Corvo, Kovalev, moi-même, Francis Bouillon. On était, je pense, 10 joueurs qui étaient partis. Mm-hmm. Et là, il y avait signé Gianta, Camilleri,
tous ces
joueurs-là. Alors, et moi, Louis, je voulais absolument me retirer en tant que Canadien de Montréal. C'était un rêve. Je disais, regarde, je suis parti. Et souvent, quand le monde me dit, pourquoi tu es revenu avec tout ce qui s'est passé? La réponse est facile, c'est que j'aurais jamais dû partir.
Mm-hmm.
Tu comprends?
D'accord.
Ah oui,
parce que c'était, pour moi, quand je suis venu joueur autonome en 2002, j'ai signé mon gros contrat, j'aurais pu attendre et signer ailleurs pour beaucoup plus d'argent, parce que des défenseurs droitiers dans la Ligue nationale, il n'y en avait pas. Et j'ai su de source sûre que les Maple Leafs de Toronto m'offraient 1 million de plus par année. Alors, j'ai perdu 4 millions juste pour rester à Montréal. Là, les gens qui m'écoutent, je me plains pas. J'ai pris une décision parce que c'était mon équipe, c'était la ville où ce que je voulais jouer. Et ça, c'est moi qui ai pris cette décision-là. Moi, je voulais être un Jean Béliveau, je voulais être un Henri Richard, je voulais être un joueur et dire un Joe Sakic, un Niklas Lidström dans le hockey d'aujourd'hui, qu'un joueur qui fait toute sa carrière avec la même équipe, il n'y en a plus parce qu'il n'y en a plus d'appartenance. Mmh. Et moi, je voulais le faire, ça. Alors, j'ai laissé de l'argent sur la table pour le faire parce que je me suis dit, je veux gagner une autre Coupe Stanley ici parce que c'est la meilleure place pour jouer au hockey. Devant ma famille, devant les partisans. Et quand je repense à la décision que j'ai prise, j'étais assez grand pour prendre cette décision-là. Mais quand je repense à ça, à 53 ans aujourd'hui, est-ce que j'ai pris la bonne décision avec tout ce qui m'est arrivé après? Ça a peut-être été la pire décision de ma vie. Une décision qui m'a détruit. C'est triste à dire. Autant que tu penses de bien faire, de dire non, c'est mon équipe. C'est ici que je veux jouer, puis c'est ici que je veux gagner, puis c'est ici.
Mais c'est quoi qui te fait le plus mal? Est-ce que c'est...
Ah, les huées.
C'est les huées. C'est les partisans ou tu as eu l'impression que c'est l'équipe qui t'a...
J'ai 53 ans, puis encore aujourd'hui, j'ai fait une promotion aujourd'hui au Centre Bell. Et les gens me parlent encore des huées. Et les gens me disent, je peux pas croire que les gens t'ont fait ça. On pouvait.
Surtout c'est toi, facile de dire. T'avais tellement l'équipe à cœur.
Exactement. Alors, je sais que l'équipe gagnait pas. Puis je sais que peut-être je performais pas à la hauteur de mon talent. Mais c'est une équipe. C'est dur de performer quand tu te fais, comme on dit, taper sur le clou puis que tu manques une passe puis oh. J'en faisais 9 de bonnes, j'en manquais une. Oh, c'est encore fait couper, lui.
C'était dur. Je l'ai vu de l'intérieur, là, puis écoute, c'est pas humain, là. C'est pas humain,
c'était difficile. C'est pas... Écoute, puis je tenais... Regarde, on en parle, puis je veux que le monde écoute. Je me plains pas, je vous jure, là. J'ai fait une belle vie, j'ai réussi, j'ai joué 18 ans en Ligue nationale, j'ai gagné une Coupe Stanley, j'ai 1000 matchs, mais... C'est triste parce que c'est souvent les partisans qui me le rappellent. C'est pas... C'est, les partisans... Hey, oui, la Coupe Stanley 93, puis les gens s'en souviennent. Puis oui, mon retour quand je revenais à Montréal. Mais la plupart du temps, c'est tout le temps les huées. Alors je me dis, les gens, quand ils pensent à moi, ils pensent aux huées.
Tu le sens encore sur le cœur aujourd'hui?
Mais oui, je l'ai encore sur le cœur.
Ça part pas, ça.
Toute ma vie, je vais l'avoir. Toute.
C'est clair. C'est clair.
C'est dommage je te dirais que c'est dommage que tu n'arrives pas à passer par-dessus parce que tu as eu une grande carrière.
Ouais.
Et de vivre ici, moi je me souviens de Michel Bergeron, entre autres, de Bergy, qui me racontait à quel point une des choses qu'il mentionnait souvent en ondes, c'était C'est une chose pour un joueur, là. Saku Koivu, il retourne chez eux l'été, puis je veux dire, Saku Koivu, c'était un grand joueur, je veux pas rien y enlever. Mm-hmm. Mais il allait passer l'été en Finlande, pareil. Puis, ouais. Ryan Savage, ou peu importe, les gars, ils passaient pas, ils étaient ici. Ouais. Mais quand t'es un Québécois, tu passes ton été ici, t'es ici tout le temps.
Tu n'entends parler.
Ta famille, tu n'entends parler tout le temps.
Effectivement.
C'est difficile. Ouais. Alors, c'est beaucoup plus, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a beaucoup de Québécois qui auraient jamais voulu faire ce que t'as fait. Ouais. Ils auraient jamais voulu. Alors, j'espère que tu vas pouvoir arriver au point, mais, sincèrement, tu vas pouvoir dire, hey, d'être fier de ce que tu as accompli et de peut-être éliminer cet aspect-là parce que
mais, hey,
ce
quoi,
que
tu as
fait, c'est exceptionnel.
On fait des fois dans nos vies des examens de conscience, puis on regarde où tu es rendu dans ta vie. Puis, et qu'est-ce que souvent qui me revient, je me dis, j'ai joué 16 ans de temps à Montréal. Et sais-tu quoi, Louis? Il n'y a plus jamais un Québécois qui va faire ça.
Oublie ça.
Alors, je suis le dernier des Mohicans. Alors, personne ne va pouvoir me l'enlever. Et des fois, je te jure, je pense à ma carrière, puis je suis fier parce que...
Mais écoute, t'as de quoi être fier, là?
Joe, je te jure, là, quand Jeff Molson m'a téléphoné, puis il m'a dit, j'aimerais ça aller luncher, puis la fois qu'il m'a dit, je veux te nommer ambassadeur, wow! Et c'est là que tu t'aperçois, tu dis, wow, j'ai fait des bonnes choses. Parce que quand on parle d'ambassadeur des Canadiens de Montréal, c'est le même titre que Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Mm-hmm. Alors, c'est tous les plus grands. Est-ce que je me compare à ces joueurs-là? Non. J'ai pas les carrières, les Coupes Stanley, des carrières comme qu'ils ont eues. Mais est-ce que j'avais la même signification de jouer que le Canadien, d'avoir le CH, d'être fier, de représenter l'organisation, que ce soit sa patinoire, l'extérieur de la patinoire, ça, je l'ai tout le temps eu. Ça a été facile, Louis, excusez-moi l'expression, d'envoyer chier le monde. Mm-hmm. C'est-tu quoi? Regarde, vous ne méritez pas, puis jamais je n'ai parlé contre l'organisation. Mm-hmm. Des mauvais échanges qu'ils ont fait, des mauvais choix repêchage qu'ils ont fait. C'est-tu quoi? Mais c'est moi, par exemple, que si on n'avait pas des bons joueurs, mais c'est moi qui essayais de faire gagner cette équipe-là. C'est moi le soir qui dormait pas le soir et qui disait, parlant, qu'est-ce que je vais faire gagner cette équipe-là?
Ouais. Ouais.
Mais le monde pense pas. Le monde, les partisans, ils pensent à quoi? Ils gagnent 4 millions par année. Mais c'est ça que des fois, les gens pensent pas. Le joueur, es-tu blessé? Ça va-tu bien? On est des êtres humains, là. On n'est pas des machines. Je sais qu'on est payé pour performer. Je suis entièrement d'accord. Mais, tu sais, des fois, je pense à Stéphane Richer, il dit, pas juste le hockey dans la vie. T'en souviens quand il avait dit ça, hein?
Critiqué. J'ai fait varder un peu pour ça.
Non, il avait raison.
Il avait raison.
Sa mère était malade. Il est arrivé plein d'affaires, Stéphane.
Ouais.
Stéphane, c'est une des plus belles personnes que tu peux pas avoir.
Ouais.
Mais regarde. C'est ça, regarde comment ça a terminé.
En tout cas, la discussion est bien lancée. Aux amateurs de sport, ça sent la coupe avec Pierre Gervais et notre invité Patrice Brisebois. C'est un beau moment qu'on vient de vivre ensemble. On va s'arrêter quelques instants pour les commerciaux, pour la pause publicitaire, mais on va poursuivre notre discussion et je vous lève mon verre.
Cheers,
monsieur. Santé à vous tous. Santé à tous les auditeurs à travers le Québec qui nous écoutent, aux amateurs de sport.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
Très heureux d'être avec vous pour les amateurs de sport en remplacement de Mario Langlois. Et on va parler maintenant du CF Montréal qui va affronter l'Inter Miami et Lionel Messi dimanche à 17h. Vandrille Lefebvre est là pour mettre la table sur ce duel extrêmement attendu parce que l'Inter Miami, c'est la meilleure équipe depuis le début de la saison. Ils ont un club loadé, comme on dit. Vandrille, merci beaucoup. Bonsoir.
Bonsoir, Louis.
Grandement apprécié que tu sois là pour nous parler un tout petit peu et mettre la table pour le duel. Alors, écoute, est-ce que c'est avantage CF Montréal étant donné que Inter Miami ont joué déjà cette semaine? Alors, peut-être qu'on est capable de profiter d'une équipe un peu plus vieille et une équipe un peu moins reposée?
Écoute, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, mais j'ai envie de te répondre que c'est avantage à l'équipe qu'a Lionel Messi dans son effectif en l'occurrence, parce que tu le sais quand même, c'est un joueur hors norme, un joueur qui a fait parler de lui depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années à un niveau que peu avaient réussi à atteindre, même pendant une saison, lui il a fait pendant plus de 15 ans, c'est vraiment un joueur extraordinaire et au-delà de lui, de toute manière, ils ont un gros effectif, hein, Luis Suarez devant, ouais. Sergio Busquets derrière. Par contre, effectivement, ils ont joué en milieu de semaine et ça devient forcément un facteur parce que c'est pas des joueurs qui sont tout jeunes. C'est des joueurs quand même qui physiquement sont assez entamés. Luis Suarez finit les matchs parfois en boitant. Alors, il reste dangereux, il reste le joueur qu'il est, mais c'est sûr que leur demander de jouer 3 matchs en l'espace de 7 jours, ça peut représenter un fardeau pour ces joueurs-là. Donc, il y a peut-être quelque chose à tirer du côté du CF Montréal là-dessus, effectivement.
Et pour le CF Montréal, dernier match face à Dallas, une victoire. Et c'est Yosef Martinez, et j'espère que je prononce bien le nom, qui a marqué le but gagnant, justement, contre Dallas, un ancien d'Inter Milan. À quel point ça va être... c'est un joueur qui pourrait être déterminant, qui va être important pour le CF Montréal, pour leur succès offensivement.
Oui, écoute, Yosef Martinez s'amène avec un statut. Hein. C'est l'un des tout meilleurs buteurs de l'histoire de la MLS, l'un des tout meilleurs joueurs de ces dernières années dans la MLS. Ça fait les beaux jours d'Atlanta, est ensuite allé à Miami. Effectivement, on s'est séparé de lui d'une certaine manière pour faire la place à Luis Suarez en position d'attaquant de pointe, le grand ami de Lionel Messi à Miami. Et du côté du CF Montréal, on a été opportuniste, on a réussi à le récupérer, à le convaincre de venir. C'est un joueur qui a eu des ennuis de santé un petit peu ces dernières années aussi, quelques blessures importantes au niveau du genou. Maintenant, c'est un joueur qui a toutes les capacités de faire d'énormes différences. Il est craint des défenses adverses et il est dans la zone de vérité, dans la surface de réparation. Un joueur qui est extrêmement dangereux encore. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière, se met en confiance dans sa nouvelle équipe. C'est sûr qu'il sera, il peut être décisif et à coup sûr, face à son ancienne équipe, il aura envie de tirer son épingle du jeu.
En discussion avec Vandril Lefebvre pour parler du match entre le CF Montréal face à l'Inter Miami, mais surtout face à Lionel Messi dimanche 17h. Et pour le CF Montréal, les 3 dernières visites en Floride se sont soldées en défaite, non seulement en défaite, mais on a été blanchi. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour essayer de mettre fin à cette séquence-là et trouver le fond du filet?
Écoute, ça va être de s'appuyer sur la dernière performance à l'extérieur en date, qui était le tout premier match en l'occurrence de la saison. Cette saison 2024, il n'y a pas 2 semaines, on s'est amené à Orlando, alors tu vas me dire que c'est en Floride aussi, mais c'est contre l'autre club, mais on s'est amené puis on a réussi à blanchir l'adversaire. Alors on s'est pas imposé, le score à la fin c'était 0-0, mais voyager en MLS c'est particulièrement difficile. Si tu es capable de le faire sans accorder de but à l'adversaire, déjà tu te mets forcément dans une bonne situation. Et même la semaine dernière à Dallas, l'équipe a été quand même assez intéressante défensivement, à la fois dans sa gestion du milieu de terrain, dans sa gestion du dernier tiers, et évidemment Jonathan Sirois qui lui aussi fait ses arrêts clés. Moi je pense que c'est défensivement effectivement que c'est là où ça se joue, parce que derrière on a une équipe avec des Joseph Martinez, avec des Yankoff, avec des Coccaro maintenant, qui sont capables de faire la différence et de marquer à tout moment.
Vandril, on vient tout juste de parler de Formule 1 avec Alex Tagliani tout à l'heure. Je posais la question à Alex Tagliani. Après déjà une course, est-ce que déjà on peut commencer à voir certaines tendances, de pouvoir départager certaines écuries versus d'autres? Maintenant, seulement 2 matchs pour le CF Montréal, 3 pour l'Inter Miami. Est-ce qu'il est trop tôt déjà pour déterminer certaines forces des équipes, et entre autres avec Laurent Courtois, le nouveau entraîneur du CF Montréal, est-ce qu'on est capable d'établir déjà un peu le style de jeu, la philosophie et tout ça, et ce que ça peut donner concrètement sur le terrain?
Écoute, c'est une bonne question, Louis. Je pense qu'il est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions, des certitudes qui ne bougeraient pas. Par contre, on est quand même capable de dégager certaines tendances, ça oui. Et quand on s'intéresse notamment au CF Montréal, évidemment j'ai mis le doigt dessus un peu dans mon propos précédent, mais c'est le niveau défensif. Je vois cette année déjà qu'il y a une forme de conscientisation du travail défensif, qui est pas mal réglé avec les 3 défenseurs centraux qui maintenant jouent ensemble depuis une bonne quinzaine de matchs, parce que ce trio a été formé en cours de saison dernière. Je parle de Campbell, Waterman et Corbeau. Ils commencent à bien se connaître. On voit qu'il y a une certaine chimie qui s'installe et c'est intéressant. On attend Sirois qui prend la confiance, et devant eux, un Samuel Piet qui est toujours très intelligent dans son placement et très volontaire, très courageux dans les duels quand il faut les jouer. Moi, ça, c'est une chose que je vois se dégager. Et ce qui est assez intéressant aussi cette année avec Laurent Courtois, c'est qu'on est revenu à un style de construction beaucoup plus patiente, un style de possession, comme on aime communément l'appeler. Mmh. Et cette gestion du ballon, elle devient assez primordiale et elle définit aussi une identité de jeu du côté du CF Montréal.
Ouais, et c'est pas un calendrier facile, évidemment, et on comprend et on sait pourquoi pour le CF Montréal. Alors, ça va être tout un défi dimanche face à Lionel Messi, justement. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu, justement, de Lionel Messi et de l'impact qu'il a eu cette année? Écoute, Suarez est là, on a d'énormes attentes et on s'attend à rien de moins qu'un championnat.
Oui, c'est clair, Louis. Écoute, on s'attend rien de moins d'un championnat. En réalité, c'est l'équipe de David Beckham. Donc, par définition, c'est une équipe qui scintille, c'est une équipe qui brille, et on est dans un marché en Floride, à Miami, où on est là pour faire rêver. Hein. L'identité, on s'en est pas caché, on veut faire rêver, donc on a amené des stars, une forme de produit marketing qui fait rêver. Maintenant, il peut y avoir un monde de différence entre ce produit marketing qui fait rêver et la matérialisation, si tu me permets de m'exprimer comme ça, de ce rêve, c'est-à-dire gagner des matchs, gagner des championnats. On a décidé de le faire, de bâtir cette équipe autour de Lionel Messi, parce que c'est ses amis, finalement, de ces dernières 15 ans de carrière qui sont là. Il y a Jordi Alba, le latéral gauche, j'ai mentionné Busquets et évidemment Luis Suarez, l'attaquant. Mais autour d'eux, on a quand même bâti aussi une équipe qui, en termes de profil de joueur, permet à Lionel Messi de s'exprimer. On parle là évidemment d'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire, donc on cherche évidemment à le mettre dans les meilleures dispositions pour performer. L'an dernier, je le rappelle, dès qu'il est arrivé, il a changé le visage de cette équipe qui était dans les bas-fonds du classement de la division Est, et tout à coup ils se sont transformés en étant capables d'aller chercher un succès dans la Leagues Cup, la première compétition qui avait eu lieu entre les équipes mexicaines et les équipes de la MLS. Et Lionel Messi, tout de suite, a eu cet impact.
Ouais, c'est vraiment remarquable. C'est presque un conte de fées. C'est comme une histoire hollywoodienne. C'est assez impressionnant. J'aurais voulu un tout petit peu parler aussi de la situation des officiels, les officiels de remplacement, mais malheureusement, le temps nous bouscule. On aura peut-être la chance de le faire, mais malheureusement, c'est un peu une distraction pour ce début de saison dans la MLS. Autant qu'on veut parler du CF, on veut parler de Lionel Messi et tout ça. Ben, une des choses qui fait énormément réagir, en tout cas dans les lectures que j'ai faites et les recherches que j'ai faites, justement, c'était la situation qu'on utilise des officiels de remplacement. Et ça fait énormément réagir très négativement. Vandré Lefebvre, merci infiniment de nous avoir préparé pour le duel entre le CF Montréal et l'Inter Miami de dimanche fin d'après-midi. Grandement apprécié.
Merci à toi, Louis. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.